Merci beaucoup, monsieur le maire. Je salue également monsieur le préfet du Havre que j'ai connu à Saint-Malo. Il n'a pas échappé que cette situation, comme vous venez d'évoquer, monsieur le maire, n'était pas forcément spontanément inscrite dans mon logiciel. Me retrouver dans cette magnifique mairie, décorer, ça n'est pas encore fait, un évêque, je reconnais que ce scénario était probablement inenvisageable il y a peu de temps. Mais pareil que tout ce qui monte converge. Et en éthologie, on appelle ça de la convergence évolutive. En fait, avec des chemins très différents, des expériences très différentes, eh bien, nous arrivons à des aspirations, des constats, des réflexions assez proches. Et donc, quelque part, pour finir, il y a une forme de cohérence dans cette convergence. Je ne vous connais pas si bien que ça, parce qu'on s'est rencontrés à quelques reprises, mais je n'ai qu'un petit don, c'est l'intuition. Important, Victor Hugo disait, l'intuition, c'est la vigie de la raison. Et les rares fois que je vous ai rencontrés, je vous ai perçu pour probablement votre première qualité, c'est un homme d'écoute et de dialogue. En préparant, mais non pas l'intervention, mais cette venue ici, je ne sais pas pourquoi, m'est venue cette phrase, ces mots, ces lignes de Teilhard de Chardin, et qui va bien dans ce qui nous a réunis. Il disait, comme quoi il y a toujours, on n'est jamais visionnaire ni prophète dans son époque ni dans son pays, mais enfin, il disait quand les hommes auront maîtrisé les vents, la pesanteur, les océans, l'énergie des océans, alors ils redécouvriront une énergie inépuisable, ils découvriront une énergie inépuisable qui est l'énergie de l'amour. Et pour la deuxième fois, l'homme redécouvrira le feu. Pourquoi est-ce que cette formule m'est venue à l'esprit? Parce que je pense que vous êtes un de ces artisans que le Saint-Père appelle de ses voeux de la civilisation de l'amour. Bon, des grands mots, presque des gros mots prononcés dans le lieu de la République, mais devons-nous être gênés? Je pense qu'effectivement c'est une énergie renouvelable et surtout indispensable parce que je pense que nous n'avons pas le choix dans ce siècle qui s'ouvre à nous, dans sa gravité, sa complexité, mais aussi sa créativité, que l'amour ou la solidarité qui va de pair n'est pas une option. Elle est la condition à la paix, parce que dès lors que nous avons voulu ou que nous avons subi un monde qui s'est relié, il faut qu'il se relie pour le meilleur et non pas pour le pire, et il ne faut pas que nos inégalités se confrontent, il faut qu'elles s'additionnent, c'est-à-dire qu'il faut que la solidarité s'exprime si l'on veut avoir un monde pacifié. Et je pense que vous l'avez parfaitement compris, et c'est peut-être pour ça que sans forcer les mots, il y a une forme de compréhension et d'estime entre eux. Mais j'y reviendrai, et certains vous connaissent mieux que moi, mais j'ai pu voir dans les témoignages qui m'ont été donnés que cette récompense est largement justifiée. On revient très rapidement sur votre parcours, c'est la petite raison de ma fiche ici, parce que je ne voudrais pas oublier des moments importants. Pour ceux qui ne le sauraient pas, vous avez été ordonné prêtre en 1981, et 19 ans plus tard, vous avez été consacré évêque. Vous avez été coordinateur pendant 15 ans de la mission ouvrière de Roubaix, et vous avez été prêtre du monde ouvrier pendant toute cette période-là. Après, le chemin aurait pu se croiser déjà là, vous avez été l'évêque d'Ajaccio, puis dans la foulée, en 2011, vous êtes devenu évêque du diocèse du Havre. Puis, vous avez été le président du conseil épiscopal famille et société de 2011 à 2017. Et là, vous avez commencé, ou en tout cas poursuivi, votre implication dans des domaines que vous n'avez jamais quittés, de justice, de santé, de politique et d'économie. Puis vous avez été, dans la foulée, un des quatre évêques français impliqué dans le deuxième synode sur la famille en 2015. Puis là, on s'est rencontrés, c'est que vous avez fait partie de ceux, et rares au début, qui avait visiblement écouté, entendu, reçu un appel que j'ai délivré, notamment un jour dans le journal Le Monde, mais dans d'autres supports, où j'appelais les églises, les hommes de conscience, les autorités morales ou intellectuelles, à venir nous épauler dans ce moment, ce rendez-vous critique de l'humanité que l'enjeu climatique nous imposait. Parce que je sentais bien, et vous l'aviez senti évidemment de votre côté, ce n'est pas une simple difficulté que nous avions sur le chemin de notre émancipation, c'était un profond rendez-vous culturel, une crise de civilisation ou un carrefour de civilisation. Peut-être était-ce la dernière étape pour que nous puissions devenir complètement humains. Et je m'étonnais que dans un rendez-vous aussi important, qui nous ramène à la question du sens, de la vision, de l'humanisme, eh bien, les églises en général me semblaient pas suffisamment impliquées. Et je m'étonnais notamment pour ce qui est de votre église, qui se dit clairement experte en humanité, que l'humanité dans ses deux dimensions, l'humanité comme la communauté humaine et l'humanité comme un sentiment majeur, et bien que l'experte en humanité que vous étiez censé les uns les autres représenter ne s'implique pas plus au moment où justement cette humanité était menacée. Puis je m'étonnais aussi que l'on soit croyant ou pas, que l'on considère que la diversité est le fruit de la création ou le fruit de l'évolution, bien que les choses ne me semblent pas forcément incompatibles, il y a une forme d'indifférence. Mais le jugement était un peu sévère parce que par la suite j'ai pu voir un certain nombre de textes qui mettaient à mal ce sentiment, mais d'indifférence sur la dilapidation justement de cette diversité. La création était et elle est aujourd'hui menacée. Et puis parce que je voyais la tentation des uns et des autres dans un enjeu universel face à quel pour la première fois la communauté internationale était confrontée, bien de repousser encore la prise en compte. Peut-être parce que l'exercice était trop fort, ou peut-être parce qu'il y avait une forme d'humiliation à ce que les hommes, tout d'un coup, découvrent que leur principal ennemi, c'était eux-mêmes. Et donc, quelque part, dans cette espèce d'aveuglement comme ça du progrès que l'on pensait constant, mais que vous avez toujours su comme quelque chose qui n'était pas acquis, une forme d'humiliation à se dire que nous étions limités dans nos performances et que nous ne pouvions pas tout. Et donc, je savais que ce rendez-vous, notamment celui de la COP21, même si ça n'était pas ni un aboutissement, ni un premier pas, mais un moment important pour se ressaisir, ça n'était pas acquis parce que réunir autour d'une même table 196 chefs d'État pour partager des responsabilités, si on ne les mettait pas justement sur leurs responsabilités, en plaçant ces responsabilités à un niveau supérieur, on n'y arriverait pas. Donc c'est vrai que j'ai lancé une sorte d'appel au secours et que vous l'avez réceptionné et vous avez été pendant ces 3 années où j'ai travaillé avec d'autres à préparer cette conférence. Vous avez été notre interface, notre interlocuteur, bienveillant mais exigeant. Et vous avez aidé à ce que ce dialogue se fasse entre le monde politique, le monde religieux, et ce que j'appelais aussi de mes voeux, un dialogue interreligieux, parce qu'il me semblait que ce sujet, comme il devait l'être en politique, devait transcender tous les clivages, puisque c'était la famille humaine qui était au pied du mur. Et j'ai trouvé là, et on s'est revu à plusieurs reprises, un interlocuteur plus que compréhensif, à qui je n'apprenais rien et qui probablement prouvait dans mes inquiétudes, mais aussi dans mes espoirs, une forme de connivence. Et on y revient. On s'est retrouvé d'ailleurs dans la même dynamique, dans un moment magnifique, œcuménique, au sommet des consciences que j'avais organisé avec toutes les autorités morales, religieuses, spirituelles que le monde comptait pour faire en sorte justement que dans cette profusion de science qui caractérise notre époque, on essaie de retrouver quand même la conscience qui devrait aller de pair. Parce que le drame de l'humanité, c'est ce désynchronisme ou cette désynchronisation entre la science et la conscience. Vous avez été, c'est probablement ce qui vous caractérise aussi, et vous l'êtes toujours, mobilisé sur des tas de sujets de société. Et ce qui vous caractérise, il y a des êtres brillants, mais qui ne changent pas. Alors, ils ne changent pas, quand on ne change pas dans ses convictions, ça ne pose pas de problème. Mais quand le monde change autour de soi, et qu'on ne réinitialise pas ses paramètres, c'est plus difficile. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire dans tout votre parcours et dans tous les échanges que nous avons eus, c'est que, en permanence, vous êtes un esprit qui cherche, un esprit qui doute, un esprit qui observe, un esprit qui comprend, un esprit très ouvert. Et le paradoxe, c'est que vous êtes sans doute celui qui, sur tous nos sujets de société, a l'approche la plus laïque qui soit. Et je dirais que, quelque part, ce caractère est probablement ce qui vous distingue le plus. Je dirais même que vous êtes un, j'espère ne pas blesser, un ultra-progressiste. Tous ceux qui vous connaissent ont toujours salué ce sens du dialogue, cette exigence, cette ouverture d'esprit dans des sujets où parfois vous êtes distingué dans des prises de position, parce que, comme disait souvent Victor Hugo, ce qu'il reprochait à la politique, mais qu'on peut reprocher parfois à la religion, il dénonçait ceux qui préfèrent la consigne à la conscience. Mais vous, vous avez toujours privilégié votre conscience à la consigne, même si cela vous a mis peut-être parfois dans des positions délicates, et sur des sujets de société, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais vous avez su maintenir avec une grande ouverture d'esprit vos opinions. Vous avez conscience justement que on ne peut plus se payer le luxe de ces préjugés, de ces affrontements, de ces divisions, de ces clivages. Vous savez mieux que tout le monde qu'on est condamné à s'écouter, à rentrer en dialogue. Ce dialogue, vous en êtes un ambassadeur permanent dans un monde qui souffre justement de cette difficulté que nous avons, pas à nous entendre, à nous écouter et à nous comprendre. Vous êtes manifesté au moment, parce que vous réagissez aux faits de société, et évidemment, compte tenu du temps que vous aviez passé à Roubaix, vous avez été particulièrement affecté par ce qui est arrivé au Père Hamel, et vous avez demandé à toutes les religions, je reprends votre expression, de faire bloc contre la barbarie. Vous êtes manifesté là où, spontanément, vous n'attendez pas forcément à suspendre la loi du travail, non pas parce que vous combattiez sa finalité, mais vous demandiez à ce que les parties prenantes, là aussi, s'écoutent. Donc vous êtes un homme pour d'apaisement. Vous avez écrit de nombreux livres, un livre sur l'islam, un livre sur l'église dans les banlieues, et un livre dont le titre aujourd'hui sonne avec une certaine pertinence, « Comment accueillir l'étranger dans la théologie ?» que vous avez écrit en 2015. Vous êtes par ailleurs un fin connaisseur des sujets de migration, et vous avez compris avant aussi que dans les migrations, il y allait et il y avait d'ores et déjà ce que l'on appelle les migrations climatiques. J'oublie bien entendu des tas d'éléments de votre parcours, mais au-delà de ce parcours, ce sont, et je ne suis pas là pour vous flatter, je suis là simplement pour reconnaître ce que ceux qui vous connaissent vous reconnaissent en vous. Cette ouverture d'esprit dont je parlais tout à l'heure. Vous êtes un intellectuel, ce qui n'est pas forcément une qualité, qui est un constat, mais justement un intellectuel qui cherche. Et ça, c'est très important. Qui n'est pas englué, vous n'êtes pas un homme de dogme. Vous n'êtes pas un idéologue. Et ceci mérite d'être révélé de la même manière. Vous êtes quelqu'un, et dans l'époque actuelle et l'actualité d'aujourd'hui, qui cherchait plutôt à établir des passerelles, au tous les sens du terme, dans un monde où la tentation d'ériger des murs, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient virtuels, est une tentation à laquelle il faut renoncer, qui serait un contresens de l'histoire. Certains disent que vous êtes, j'aime la formule, respectueux d'altérité, jolie qualité. On dit aussi que vous savez très bien travailler collectivement, mais que vous savez parfois imposer vos idées et les dire avec force et conviction. Gros bosseur, paraît-il, qui connaît bien ses dossiers. En ce qui concerne les miens, j'ai pu mesurer que je n'avais pas grand-chose à vous apprendre. Homme du Nord, c'est une qualité, c'est un constat, mais étant né aussi à Lille, on peut dire que c'est une qualité. Homme droit, mais homme lucide, d'une société qui s'essouffle, d'une société, comme disait Einstein, qui se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions. Et donc vous avez bien conscience que ce qui est au cœur de nos préoccupations, c'est la question du sens. Quel usage allons-nous faire de notre puissance, de notre technologie et de notre science? Vous êtes un collaborateur attentif, loyal et respectueux, d'une laïcité apaisée et positive. Et ça m'a été dit par beaucoup de personnes. Et puis, vous l'avez employé le mot tout à l'heure quand nous étions devant des lycéens, vous avez écouté le pape et vous, comme lui, vous êtes attentif aux clameurs de la terre et aux clameurs de la misère. Vous écoutez, comme disait Victor Hugo, la nature nous parle mais nous ne l'écoutons pas. Et vous écoutez son murmure et sa détresse. Et vous avez conscience que l'enjeu écologique, c'est un enjeu humaniste. Et vous faites votre vision de l'écologie intégrale, prônée dans l'encyclique du pape, et que moi j'appelle l'écologie humaniste. Vous avez également une vision, une réflexion très novatrice sur le rapport entre le travail, l'emploi et l'utilité sociale. Et Dieu sait que ce sujet est au cœur de nos problématiques. Voilà, vous avez quelque part paraphrasé Martin Luther King, qui disait à propos de la cause des Noirs, nous sommes condamnés à nous entendre ou à tous mourir comme des idiots. J'ai vu que vous disiez, on est condamnés à s'entendre, se parler, entrer en dialogue. Pas d'esprit partisan, je l'ai dit. Vous vous déclarez vous-même en service d'humanité. Magnifique définition. Je dirais que, quelque part, vous êtes un veilleur, un observateur, pour les évêques, des changements qui sont en cours de notre société. Observateur, mais également prescripteur. C'est pour l'ensemble de ces raisons, de ces qualités humaines qui font parfois tant défaut, parce que si elles n'accompagnent pas l'intelligence, si elles ne sont pas là comme des filtres, comme des garants, comme des guides, alors l'intelligence n'est pas forcément quelque part un gage de progrès. Le gage du progrès, c'est justement d'allier l'intelligence à des mots que vous connaissez bien, humilité, dignité, sobriété et solidarité. Et Monseigneur, c'est pour toutes ces raisons et bien d'autres que j'ignore, que je suis excessivement fier aujourd'hui de pouvoir vous distinguer.